RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de José Brossard et de Cédric Urras, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Coach Courbis. Salut Roland.
Salut les amis.
Et avec Edouard G qui est à Lyon. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut coach. Bonjour
salut
à tous.
Doudou.
Alors on aurait bien aimé faire une évaluation, hein, mais évidemment là ça va être compliqué. Quoi qu'on peut s'amuser, hein, homme du match, Rudy Buquet.
Il y a un flop. Il y a un flop.
T'as un boulet.
Des boulets. Ah bah oui, de...
Comment c'est le prénom de celui qui ressemble quand même à un tireur de pétanque là, qui arrive quand même à être à droit parce que c'est pas facile quand même.
Je sais pas comment il s'appelle, il est toujours en garde à vue d'ailleurs.
Il est toujours en garde à vue, exactement.
Bon, il y aura quand même des débats hein, au programme, comme toutes les semaines, principalement basés autour de ce qui s'est passé donc en coulisses lors du match face à Marseille, avec quelques révélations tout de suite dans le podcast After Lyon. Bon, en tout cas, Rudy Buquet, dans un certain sens, a été l'homme du match, puisque c'est lui qui l'a définitivement arrêté. Évidemment, depuis hier, les versions, diffèrent. Alors, principalement, une version lyonnaise et une version marseillaise. On va démarrer parce qu'Edouard, tu as rencontré, là on est lundi en fin d'après-midi, tu as vu le préfet de région il y a quelques minutes à peine.
Oui, il était l'invité de nos confrères et nos cousins de BFM Lyon et bien il a reparlé de tout ce qui s'est passé. Donc ce que vous pouvez lire sous notre plume sur le site internet, notamment qu'hier soir, donc sitôt l'incident, une réunion de crise se fait dans le PC sécurité. Donc nous sommes au troisième étage du Groupama Stadium, là où il y a l'arbitre, les deux présidents, le directeur de la police départementale, le préfet et la vice-procureure, beaucoup d'autorités. Et là, bien l'arbitre d'entrée rappelle l'article 549, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui doit donner le feu vert ou pas pour la reprise du match. Ça, ce sont les textes, mais surtout, il fait un tour de table. Il demande à toutes les autorités de savoir comment ça va se passer si le match ne reprend pas. Alors notamment, et c'est ce que me dit Pascal Mayos, le préfet du Rhône, notamment au niveau sécurité, eh bien, on explique à ce moment-là qu'il y a 57 000 personnes dans le stade, qu'il n'y a qu'une compagnie de CRS, donc 60 personnes, et qu'il y a à ce moment-là pas le tram qui peut ramener les spectateurs. Donc voilà, on évalue pendant 40-45 minutes toutes les données, et à ce moment-là, parole de préfet, parole de DDSP, le directeur de la police, et parole de vice-procureur. Pour eux, là, c'est clair, l'arbitre, à ce moment-là, annonce qu'il faut faire repartir le match. Et d'ailleurs, tout se met en route pour cela. Et on dit, l'arbitre descend du troisième étage dans son bureau d'arbitre à côté des vestiaires des équipes et dit, notamment aux Lyonnais, vous pouvez reprendre, les Marseillais également, parce qu'il a convoqué les entraîneurs. Sauf que les Marseillais, à ce moment-là, refusent. Les Lyonnais vont sur le terrain. Et là, ce que me dit du côté de la préfecture à Lyon, eh bien, il y a un revirement. Une vingtaine de minutes après, alors que tout était en place pour repartir, la seule incertitude, c'était il fallait mettre des boucliers pour protéger le tireur de corner. Ça avait été accepté et validé par la préfecture. Eh bien là, sans ce que me dit le préfet, sans comprendre, et bien là, à ce moment-là, l'arbitre a décidé que le match ne reprenait pas. Et donc ensuite, le match n'a pas repris. Donc tout cela entre 22h et à 22h, le match devait avoir lieu. À 22h45, le match ne devait pas avoir lieu.
Bon, voilà donc les dernières infos, Roland. Alors à Marseille, on dit que...
Et on passe de volte-face. Hein.
Ouais, et à Marseille, on dit que bon, mais... en fait, il n'a pas été vraiment matérialisé concrètement, que le match devait reprendre. Donc après, on joue un peu sur les mots. Là, mais... c'est quand même le préfet qui le dit clairement, quoi.
Ouais, mais attends, je ne vais pas me transformer en Sherlock Holmes. Mais moi, il y a...
Bel accent, Roland.
Ouais, mais il y a une personne que pour moi, il faut interroger, et pratiquement la seule... C'est celui qui a le micro.
Le speaker.
Mais enfin, il a pas annoncé ça tout seul, non? Il a pas
pris la décision
tout seul.
On sait ce qui s'est passé, Edouard peut te l'expliquer.
Oui, c'est la Ligue qui lui dit ça repart. C'est le délégué à ce moment-là qui donne l'information.
Le délégué, il n'a pas pris comme ça une décision tout seul.
Il sortait du bureau de l'arbitre.
Et ben voilà.
Donc, et moi j'étais dans les coursives à ce moment-là. Donc
je trouve, de tous les stadiers, le match. C'est le délégué qui, c'est pas le délégué qui va parler au speaker. On voit les images là.
À quel niveau?
Quand on voit une personne qui va voir le speaker pour lui dire voilà ce que tu peux annoncer.
Bah, ça doit être le. Alors, j'ai pas vu l'image, mais ça doit être le stadium manager, non?
Sans doute, mais enfin, je ne crois pas que ce soit le délégué.
Il vient d'avoir une décision qui a été prise. Le speaker, il va pas annoncer que le match il reprend si une personne importante ne lui a pas dit qu'il reprend.
Voilà,
et les Lyonnais, les joueurs lyonnais, ils vont pas s'entraîner comme des idiots. C'est que le match, on leur a dit qu'il allait reprendre quand même.
Bien sûr.
Oui, quand on voit Alvarez qui met un coup de pied, c'est qu'il pensait que le match n'allait pas reprendre, Gonzalez, et que d'un coup, ben le match il reprend.
Ça me
paraît être logique.
C'est au moment où l'arbitre convoque les deux coachs et les deux capitaines, sauf que c'est Steve Mandanda, vice-capitaine, qui vient parce que Dimitri Payet est dans l'état qu'on sait. Et donc là, l'information de la tenue du match a lieu à ce moment-là. Et Steve Mandanda et le coach marseillais retournent dans le vestiaire, annonce l'info, et puis là, à ce moment-là, Guendouzi sort un petit peu de ses gonds dans le couloir, Alvaro Gonzalez également, en tapant sur du mobilier. Voilà des faits que j'ai pu me faire confirmer par différentes sources aujourd'hui. Et voilà, il y a ce moment.
On a vu les images, même du couloir. Hein, on a vu, voilà. On a vu les images.
Et quand on voit des images.
La seule zone d'ombre dans tout ça, Edouard, et c'est là-dessus que appuie la version de l'OM, c'est en gros. Quels ont été les mots exactement prononcés par l'arbitre? Dans quelle mesure est-ce que l'OL n'a pas tenté de forcer un peu la reprise? Voilà, ça c'est le préfet, on ne va pas remettre en cause la parole du préfet, hein, bien évidemment, mais, hein, tu l'as vu. Enfin mais, voilà, là-dessus, il y a peut-être petit point d'achoppement.
Je suis désolé, des conneries, on en fait tous et on en dit tous, mais il y a quand même un truc, moi, hier, que je me pince pour savoir si c'est vrai. À partir du moment. Où il arrive cette action qui est une action surprenante. Un gars qui, malgré tout ce qui s'est passé sur les dernières semaines et les derniers mois, il se débrouille quand même de lancer une bouteille et en plus d'atteindre sa cible. Et à partir du moment où ça s'est passé, ça, on ne va pas applaudir ironiquement en disant « il est à droit celui-là ». Mais le match est terminé. Le match ne peut plus se jouer avec Payet qui ne peut plus, jouer.
Ça, c'est ton avis. Mais Jean-Michel Aulas, il l'a très bien dit hier sur Amazon, il a dit « on voulait reprendre ».
Mais qui voulait reprendre, ça on peut le comprendre, mais que le match, il est impossible à reprendre, on doit quand même le comprendre aussi. Ça doit durer 5 minutes, la décision, pas 2 heures.
Jean-Michel Aulas aurait pu dire, écoutez, vu les circonstances, je comprendrais qu'on reprend et on n'insistera absolument pas pour reprendre.
Oui, en sachant que d'entrée, c'est l'arbitre qui dit, voilà, c'est moi qui décide. Alors, comme me dit Monsieur Maillos, le préfet du Rhône, c'est pas moi qui suis le maître des horloges, c'est l'arbitre sur le coup et c'est lui qui prend tout ce temps-là. Donc, ça a duré 2 heures et puis, franchement, moi, je suis dégoûté de tout ça à titre personnel pour des potes qui ont fait des kilomètres, qui ont dépensé de l'argent, pour des enfants qui avaient noté ce premier match. Vraiment gros match après le confinement pour tous les techniciens, coach, hein, tu connais ça, tu prépares un match et puis finalement tout est mis à terre et puis tous les organisateurs également
pour un individu, on est obligé de suivre les Lyonnais et de se mettre à la place des Lyonnais mais aussi après il faut se mettre à la place des Marseillais. Les Lyonnais font le maximum pour qu'il y ait donc une comment dirais-je, aucun risque de quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'on s'imagine mal dans ce match-là, télévisé le soir, dimanche soir, match, etc., l'Olympico, on s'imagine mal, un énergumène qui malgré tout, bon, alors c'est vrai que peut-être par prudence, malgré tout, et malgré, on sait très bien qu'il y a cette rivalité maintenant entre Lyon et Marseille qui est tout sauf sympa et qui peut effectivement, malgré tout ce qui s'est passé sur ces dernières semaines et ces derniers mois, avoir un énergumène, prenons prudemment la possibilité de mettre, comme ça s'est passé au stade de Vélodrome, de mettre les filets, et tant mieux si ça sert à rien. Mais là, il y a quand même un oubli, et cet oubli, on l'aurait peut-être tous fait, mais tu mets pas les filets, et tu as effectivement un Fada qui balance une bouteille en plastique. Tu t'imagines un gars qui balance une bouteille en plastique, les dégâts que ça a pu faire parce qu'il atteint sa cible, il y a 56 000 spectateurs. Ben ça, quand ça s'est passé, on ne doit même pas réfléchir si le match il reprend ou il reprend pas. Alors, on réfléchit aux éventuelles sanctions qu'il peut y avoir, les circonstances atténuantes par les circonstances atténuantes, mais on ne prend pas la décision dans un premier temps de refaire ressortir les Lyonnais pour se chauffer dans un match qui ne peut pas reprendre à partir du moment où Payet ne peut pas jouer.
Justement. En sachant que ces histoires de filets, c'est une histoire aussi de confiance que veut instaurer le club avec ses groupes de supporters et notamment les capos qui
oui, mais d'ailleurs, il y a eu l'intervention.
Et cette confiance,
il lui a mis deux gifles à celui qui avait...
Exactement.
Ça, c'est très bien, mais malheureusement...
Il suffit d'un énergumène, bien évidemment, sur le coup. Il y a eu beaucoup, au niveau des capots, de messages pour calmer tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un tifo en papier. Et on a même, du coup, vous avez vu, au moment où ça se transforme un petit peu en boulette. Et donc, certains l'ont envoyé. Mais le message clair à ce moment-là, c'était déchirez-le pour faire, après, des confettis à un autre moment. Voilà, donc, les capots ont essayé de tenir tout ça. Mais et en plus, la personne, contrairement à des rumeurs qui courent sur le tribunal pénal de l'Internet, là, ce n'est pas... Un bad gun, c'est une personne qui en plus a pris un billet qui a été voilà, même pas à son nom. Voilà, c'est quelque chose de fou. Donc il est venu et il a jeté cette bouteille d'eau à l'instant, à l'endroit où il est. C'est pas sûr que s'il y a le filet, d'ailleurs, le filet puisse le retenir parce que le filet ne va pas couvrir cet angle-là. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. C'est facile de faire le faucon Yuka par rapport à ça, mais il y a ces histoires-là. En sachant que cette personne n'est pas encarté bad gun, pour être précis, quelqu'un qui est arrivé sur un billet avec qui n'était pas à son nom, mais il était exfiltré et il risque gros. Et pour l'instant, il est en garde à vue pour violence volontaire ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours avec arme et dans une enceinte sportive.
Je pense
Concluons par un point précis quand même.
Augmenter au code pénal des sanctions compte tenu que la bêtise là et la limite de la limite a été dépassée. Là vraiment, avec la période qu'on traverse, avoir, si tu veux, c'est même pas le culot, avoir l'idée de jeter une bouteille. Sincèrement, mec en garde à vue, je sais pas qu'est-ce que tu peux lui poser comme question.
Alors, l'OL entend radier à vie l'individu. Juste, entend radier à vie l'individu et sachez que l'OL a déjà porté plainte contre l'individu et se porte passif civil pour la suite des procédures. Donc, économiquement parlant, cette personne risque très gros à terme. Et là, on ne va pas lancer le dossier, je vous dirai tout.
À l'OL, que craint-on comme sanction, Edouard? Est-ce que tu as des infos là-dessus?
La crainte,
il y a déjà le match à huis clos
face
venir,
à Reims, hein, le 1er décembre. Voilà, donc on imagine le scénario du pire d'une certaine manière, des points en moins, et puis pourquoi pas aussi économiquement parlant, deux autres matchs à huis clos. Parce que ce qu'on craint, c'est qu'à Lyon, c'est que l'OL prenne cher entre guillemets par rapport à pour la première fois, on va dire, dans l'histoire et dans cette année. Et trois matchs, ça nous amène au match du 9 janvier Lyon-Paris. Je vous fais pas un dessin, c'est 5 à 6 millions d'entrées dans les caisses qui peuvent justement garnir les recettes. Et 5 à 6 millions en ce moment, là, ce serait aussi touché au portefeuille. Donc on craint beaucoup, notamment des points en moins, et aussi cet aspect de huis clos, notamment pour ce Lyon-PSG du 9 janvier prochain. Mais bien évidemment, on n'en est pas là. Le premier match face à Reims, oui. Et après, tout sera décidé le 8 décembre lors d'une commission de discipline.
Merci Edouard. Merci Edouard. Et
salut Edouard.
Et à très vite. On se retrouve la semaine prochaine pour parler foot.
Ouais, on espère. Ouais.
Exactement. Ciao Edouard, à plus.
Allez, ciao, ciao.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.